Morning Edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
Et ce soir, la voici donc la dernière sortie électorale avant Brexit. Les Anglais votent. S'ils donnent une majorité ferme à Boris Johnson, bye bye Britain pour l'Europe. On entend des Britanniques, au sortir de l'isoloir, dire qu'ils ont choisi la moins pire des options. Mais au fond, quelle est-elle, cette moins pire des options? On y vient tout de suite. Le bruit du monde est à Tokyo ce soir. Qui est, paraît-il, la ville la plus sûre du monde? Karine Nishimura a testé pour vous. Dans le bruit du monde, la suite, Amélie Perrier nous emmène à Hong Kong, dans l'armée allemande et aussi au Rwanda. 18h50, pas de chronique Europe ce soir. 18h55, le monde à l'envers et Jean-Marc Four avec le sentiment anti-français qui monte encore un peu plus au Sahel. Le monde est vaste. On a une bonne heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Dès. Un jour dans le monde.
Bonsoir John Henley.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste au Guardian. On vous remercie d'être venu jusqu'à nous, d'avoir bravé en plus les intempéries. On est quand même un peu tenté de dire ouf, on va peut-être en finir au moins avec ces élections. Est-ce que c'est pas au fond aussi le sentiment des Anglais qu'on en finisse?
Oui, je pense que oui, c'est le pays on a vraiment marre. Hein, ça fait 3 ans et demi depuis le référendum. Le Brexit n'a toujours pas été mis en œuvre. Il y a un vrai sentiment de voilà. Achevons ce truc, il faut vraiment que ça... Et c'est, en fin de compte, c'est cela qui pourrait, je pense, produire une victoire pour Boris Johnson. Mais ce n'est vraiment pas du tout sûr. Je veux dire, les sondages, étant donné la marge d'erreur, etc., on pourrait toujours finir avec un Parlement sans majorité.
Ah, puis vous avez un rapport au sondage, pardon, John Henley, mais vous avez un drôle de rapport au sondage. Souvenez-vous que Cameron devait perdre les élections en 2015, que le Brexit ne pouvait pas passer en 2016, que Theresa May devait conserver sa majorité. Donc, être en tête des sondages, voilà, c'est pas forcément une bonne nouvelle.
On fait gaffe aux sondages.
On parlait de lassitude à l'instant. Est-ce que c'est pour ça que les libéraux démocrates, par exemple, les Lib Dems, se sont effondrés dans les sondages? Les seuls qui avaient l'air de donner une espèce de voix intermédiaire, finalement s'effondrent.
En partie, oui. Je pense qu'il y a deux facteurs en fait qui seront importants dans le résultat de ces élections. Le premier, c'est que c'est l'effondrement total du parti Brexit, pour le Brexit Party de Nigel Farage, dont tous les votes ont été reportés visiblement vers les conservateurs. Donc en fait, le camp pro-Brexit, les forces du pro-Brexit, si vous voulez, ont réussi à se réunir derrière Boris Johnson. Alors que le camp contre le Brexit reste toujours divisé entre le parti travailliste, le Labour, qui a quand même gagné quelques votes des Lib Dems, mais pas suffisamment, peut-être, pour vraiment réussir à challenger Boris Johnson. Donc, il y a pas mal de circonscriptions. On pense qu'il y a peut-être une cinquantaine de circonscriptions, ça fait quand même beaucoup sur 650, où il y aura des triangulaires, où la division entre les forces contre le Brexit vont peut-être laisser passer le candidat conservateur.
Ils sont étonnants, ces libéraux démocrates. On a l'impression qu'ils se sont trompés de positionnement, en quelque sorte. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on revienne à zéro, qu'on annule complètement l'article 50. Est-ce que c'était stratégiquement dans le contexte?
Je pense que ça a été très mal reçu, en fait. Parce qu'en fin de compte, oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient bien, de toute façon, pouvoir revoter sur le Brexit. Je pense que ça, c'est la position majoritaire. Et cela dit, oui, je veux dire, c'est quand même la grande ironie de ces élections que selon tous les sondages, le pays est maintenant majoritairement pour rester dans l'Union européenne. Peut-être 56-57 contre 43-44, alors que on s'apprête, manifestement, on pense, selon les sondeurs, on s'apprête à voter un premier ministre, pour un premier ministre, un gouvernement qui va poursuivre un Brexit très 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 dur. Donc, mais je pense que ça a été, oui, la position des libéraux démocrates a été mal perçue, je pense en partie parce que beaucoup de gens qui sont contre le Brexit sont aussi très conscients de l'importance de la démocratie.
En fait, et du vote.
Il y a eu un vote public et il faut en quelque sorte le respecter. Moi, je compare, par exemple, avec le référendum de 2005 en France, et le fait qu'en gros, le gouvernement français a dit aux électeurs français, voilà, on demande votre avis, et après a dit, bah, désolé, c'était pas la bonne opinion. Et je pense qu'on a du mal à revoir un acte démocratique de cette envergure.
Est-ce que le fait que les anti-Brexit n'aient pas réussi à se fédérer en une seule entité, effectivement, contrairement aux autres, est-ce que c'est lié aussi peut-être à la personnalité de Jeremy Corbyn?
Tout à fait, c'est ça exactement le deuxième facteur, le deuxième facteur le plus important, je pense, de cette élection. C'est tout à fait le caractère, le personnage de Jeremy Corbyn, qui, malgré les mensonges documentés de Boris Johnson, le fait qu'il est perçu par beaucoup d'électeurs comme quelqu'un qui est vraiment très très éloigné des gens normaux, des gens de la rue, comme on dit en anglais, le programme, le personnage de Jeremy Corbyn et surtout son programme, qui est quand même un programme assez radical de gauche, de nationalisation, de investissements de 80 milliards dans les services publics, etc. Mais c'est un programme classique de radical de gauche et quand même, ça fait peur à beaucoup d'électeurs.
Et d'ailleurs, il a voulu faire une campagne qui ne parlait pas que de Brexit, qui parlait effectivement de services publics, qui parlait d'hôpitaux,
le service de santé,
qui parlait de services de santé, etc. Stratégiquement, c'était une bonne idée ou pas?
Je pense qu'il
détournait l'attention.
Oui,
il était
obligé de le faire parce que lui-même, il est tellement ambigu sur ce sujet du Brexit. Et l'approche du parti travailliste reste aussi très ambiguë. Le parti travailliste a un très très grand problème et l'a eu depuis le début avec le Brexit, c'est-à-dire que la plupart de ses militants, ces activistes sont pour rester, mais la plupart de ces députés représentent des circonscriptions qui ont voté très lourdement, massivement en fait, pour sortir. Donc c'est un parti qui est partagé, qui est divisé sur le Brexit. Et Jeremy Corbyn, il a essayé de maintenir cette ambiguïté, mais en fin de compte, je pense que ça va lui coûter dans les urnes.
Alors si, et après on passera à Johnson, si les travaillistes font un score qui est finalement pas si mauvais, sans imaginer une majorité, mais sont en position, avec qui ils vont s'allier? Est-ce que ça suffit de s'allier avec les Écossais du SNP pour former une majorité ou pas?
Tout dépendra évidemment du chiffre, résultat. Mais je pense que c'est effectivement très important. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que la seule victoire, ou tout ce qui compterait comme victoire pour Johnson, c'est la majorité absolue de députés. Et le système électoral britannique tout est basé sur les circonscriptions. Il n'y a pas de proportionnalité du tout. Donc même s'il y a 10 points d'avance dans les sondages, ça veut en fin de compte rien dire. Il faut voir dans les circonscriptions. Il lui faut cette majorité absolue. Il lui faut au moins 320 députés. S'il ne les a pas, les partis d'opposition, ils peuvent se mettre d'accord sur très très peu, mais ils peuvent bien se mettre d'accord pour empêcher un Brexit à la Boris Johnson.
Et donc, on est reparti.
Voilà.
Si, partons du principe qu'il a une réelle majorité, une vraie majorité, le calendrier, lui, dit 30 janvier, c'est fini. Est-ce qu'on peut acter une sortie avant Noël? Parce que Noël, c'est dans 15 jours.
C'est son intention.
Ouais.
S'il a cette majorité, il a l'intention de faire voter l'accord de sortie de l'Union européenne avant Noël et effectivement de sortir avant le 31. Je pense pas que ça pourrait se passer plutôt que ça, c'est dans la traité, c'est le 31. Par contre, ce qui est vraiment mensonger en fait de sa part, c'est le slogan qu'il a utilisé pendant toute la campagne, Get Brexit Done, donc réalisons enfin le Brexit. Mais ça donne l'impression que une fois qu'on est sorti le 31, c'est la fin de l'histoire. Et c'est vraiment pas du tout le cas parce que en ce moment-là, il va falloir. C'est ce qu'on a vécu jusqu'ici, c'est 3 ans et demi. C'est vraiment que l'hors d'œuvre. Et vraiment le plat principal est à venir. Et c'est la négociation, les négociations sur la relation futur entre l'Union européenne et son premier et unique ex-membre. Et ça, ça va être très très compliqué. Lui, il insiste qu'il est capable de le faire pendant la période de transition qui dure 11 mois jusqu'à fin 2020. Tous les experts dans le commerce international disent que c'est impossible, ça va durer 3, 4, 5 ans.
Est-ce qu'il a au moins l'assurance que tout le monde votera à partir de maintenant comme un seul homme? Parce que l'un des problèmes qu'a eu Theresa May, mais qu'a eu Johnson aussi, c'est que au moment de voter à la Chambre des communes, on se souvient des 20 qui avaient finalement été exclus et puis qui sont revenus dans le parti, mais enfin, il avait un mal fou à l'intérieur de sa propre majorité. Est-ce qu'il s'est assuré, est-ce qu'il a assuré ses arrières? Est-ce que ça fait partie du deal? Si t'es élu conservateur, tu votes pour moi.
C'est une, c'est une très bonne question et ça va encore une fois dépendre de la majorité, de la taille de la majorité qu'il a. Il va lui falloir une majorité suffisamment grande pour prendre en compte justement des potentiels rebelles. Quoique, il y aura, je suis complètement d'accord avec lui, il y en a très peu, je pense, après ces élections, dans le nouveau Parlement, parce que les 20 qui ont été exclus, Mais il y a aussi, faut pas oublier, les Brexiteurs ultra durs, de l'aile droite du parti, qui ont aussi voté contre le deal de Theresa May et qui, si il y a le moindre signe que Boris Johnson va lâcher un peu, va se soumettre un petit peu aux exigences de l'Union européenne, eux aussi, ils vont provoquer des problèmes encore. Donc, il va lui falloir une majorité. Je pense qu'une bonne, au moins entre 20 et 30. S'il a une majorité de 30, je pense qu'il est,
il
est sûr.
Il a les mains, suffisamment, il a une suffisante marge de manœuvre. Je lisais une statistique complètement effrayante qui dit que 90% des 6000 publicités des conservateurs envoyées sur Facebook pendant la campagne contenaient ou renvoyaient des affirmations trompeuses. Et je ne suis pas sûre que les travaillistes d'ailleurs étaient en reste. Est-ce qu'elle a été particulièrement violente cette campagne, même plus que la campagne au moment du Brexit?
Elle a été extrêmement violente. Elle a été, oui, le discours politique en Grande-Bretagne. Je veux dire, moi j'ai vraiment l'impression, même si je l'observe de loin, j'ai vraiment l'impression qu'on a passé un cap et qu'on est arrivé à un moment où les hommes politiques, et c'est vrai surtout du côté des conservateurs, le service du presse de la campagne conservatrice ont vraiment fait des trucs extraordinaires. Ils ont essayé de faire passer leur compte Twitter pour le compte d'une organisation de fact-checking indépendant, etc., pour pousser de la propagande anti-travailliste, etc. Il y a eu des gestes, mais vraiment extraordinaires. Et oui, j'ai l'impression qu'on a passé un cap, qu'on est entré dans une période où une période un peu trumpienne, où les hommes politiques et les femmes politiques ont l'impression qu'ils peuvent vraiment dire tout ce qu'ils veulent, parce qu'en fin de compte, tout le monde s'en fiche.
On a dit pendant ces deux ans et demi, au fil de ces deux ans et demi depuis le vote, que le climat était devenu délétère, que c'était très compliqué à l'intérieur des familles. Mais je vous écoute, j'ai l'impression que c'est de pire en pire en fait. Et comme vous me disiez tout à l'heure qu'on n'avait que vu l'entrée, que bientôt viendrait le plat de résistance, vous en êtes où, les Anglais, vous, honnêtement?
Je pense que les fractures et les divisions vont être très 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 difficiles à remettre. Je veux dire. Oui, il y avait un sondage il y a quelques semaines qui m'a vraiment frappé. On a demandé aux chefs de famille, aux pères et aux mères, comment vous vous sentirez si l'un de vos enfants annonçait qu'il voulait se marier avec quelqu'un qui a voté pour ou dans l'autre sens, dans le référendum. Et il y avait une grande majorité, genre 60%, qui ont dit « moi, j'aurais personnellement vraiment du mal ». Et donc ça montre à quel point générations sont divisées, les familles sont divisées, il y a les enfants qui ne parlent plus à leurs parents.
Ça veut dire que cette élection ne réglera rien, en fait, ne réglera pas ça du tout, ne mettra pas au moins les choses à plat pour tout le monde.
Je ne le pense pas. Et surtout, les deux chefs de parti, les deux leaders, les deux premiers ministres potentiels, Jeremy Corbyn et Boris Johnson, ils parlent d'une volonté de réunir le pays et unifier le pays après ces trois ans et demi de division. Mais ils ont tous les deux mené des campagnes extrêmement polarisante en fin de compte.
Donc on n'est pas sorti des ronces comme on dit chez nous, je sais pas comment on dit ça en anglais, on n'est pas sorti des ronces,
absolument.
Ça existe ça ou pas?
On est, oui, c'est, oui, ouais, c'est bon,
on va chercher. Comment ça se passe très très concrètement, résultat assez tardif, 22h, 23h?
On aura, oui, non, on aura une sortie sondage des urnes qui est normalement relativement juste,
okay.
Vers 22h heure de Londres.
Je
donc
me souviens
23
que pour le Brexit, la sortie des urnes n'était pas bonne.
Ouais,
mais bon.
Mais 23h heure de Paris, les premières grandes villes vers 1h, 2h du matin, mais le résultat définitif vers 6h, 7h du matin.
Bah, on vous souhaite une bonne nuit, Janelli. Elle sera longue et pour nous aussi, merci beaucoup en tout cas pour ces explications. Merci vraiment.
Le 18-20, Fabienne Synthèse sur France Inter.
La suite, ce soir, ça se passe à Tokyo, puisque la ville a la réputation d'être la plus sûre du monde. Eh bien, Karine Nishimura a testé pour vous les coins sombres et les heures tardives. Le bruit du monde, la suite, Amélie Perrier, avec des experts chargés de documenter la violence policière à Hong Kong, qui renoncent.
Oui, ils ont jeté l'éponge à cause de la police des polices à Hong Kong, qui est complètement incompétente.
Pas de nouvelles de l'Europe ce soir, mais le monde à l'envers est là. Bonsoir Jean-Marc Four.
Bonsoir, bonsoir.
Avec encore une preuve que le Sahel et la France, c'est un mariage compliqué. Hein.
Oui, et si on fichait le camp, en fait, et si on se retirait militairement de cette zone où ça se dégrade tous les jours, ça vaut le coup d'examiner l'hypothèse.
Voilà, un Frexit du Sahel, donc ne bougez pas tout le monde, le tour de la planète n'est pas fini. Voici les Taxi Brothers, Soak It Up. Ce soir est à Tokyo. Tokyo, ville classée la plus sûre du monde dans le palmarès établi par l'Institut de recherche du magazine économiste, du magazine britannique, pardon, The Economist. Alors certes, la ville est menacée par des séismes, ce qui n'est pas tout à fait anodin, mais enfin, au-delà de ce détail, le taux de criminalité est très bas. La prison de Tokyo, par exemple, celle où a séjourné Carlos Ghosn, eh bien, elle n'est qu'à moitié pleine. Alors comment on explique un tel civisme ? Nous avons demandé à Karine Nishimura, qui ne recule devant rien, puisqu'elle vit à Tokyo depuis 20 ans et n'y a jamais subi le moindre vol ni la moindre agression, eh bien, racontez-nous, Karine, on est parti.
En effet, Fabienne, la sûreté à Tokyo est une des raisons qui d'emblée m'ont fait aimer cette ville de 13 millions d'habitants. Car la sûreté, c'est aussi la liberté, celle de se déplacer en toute quiétude, de jour comme de nuit. Ce couple de londoniens de passage est du même avis.
Les gens sont très polis, ils ne traversent pas la rue n'importe où. On s'y sent bien. Nous revenions l'autre jour d'un match de rugby. Il était 21h et nous avons décidé de marcher dans les petites rues, en retrait. Aucun problème. C'est notre premier séjour à Tokyo. Et c'est vraiment très très agréable.
C'est très propre. Même dans les plus petits cafés, les toilettes sont impeccables.
Cette jeune japonaise ne dit pas autre chose. Vous pensez que Tokyo est une ville sûre ?
Oui.
Pour quelle raison ?
Parce que par exemple, quand je vais dans un café ou un restaurant, je laisse mes affaires sur la table pour indiquer que la place est prise et je vais sans m'inquiéter de risque de vol chercher ma commande ou aux toilettes. Ça, je ne peux pas le faire à l'étranger.
Et si par hasard vous perdez quelque chose dans le train, que faites-vous ?
Je vais le signaler au personnel de la gare.
Et que se passe-t-il ?
En général, je le retrouve.
C'est pas extraordinaire. Êtes-vous déjà allé à Paris ?
Oui.
Et alors ?
J'étais sans cesse sur mes gardes.
À Tokyo, qu'est-ce qui vous rassure surtout ?
Je vérifie toujours la présence d'un koban à proximité.
Koban, le mot est lâché. Koban, c'est un petit poste de police. Suivez-moi, je vous explique. On traverse le passage Clouté. C'est très calme en fait, hein, les rues de Tokyo, personne ne hurle. On est très très rarement saisi de panique ici. Et on arrive vers le petit Koban. Il y a un vélo garé à proximité. C'est le vélo avec lequel patrouillent les îlotiers. Et à l'intérieur, eh bien, il y a une dame qui apparemment demande son chemin. Et là, je fais 150 mètres à pied. Et j'ai déjà un autre Koban en vue, un autre petit poste de police. Si les Japonais sont si civiques, c'est aussi une question d'éducation, explique l'un des patrons de la sûreté à la mairie de Tokyo.
La présence d'un koban à tous les coins de rue fait que dès le plus jeune âge, en allant faire ses courses, les parents disent aux enfants « Tu vois, si tu fais des bêtises, les policiers vont t'attraper. » Et cette éducation morale se fait de façon répétée dès la plus tendre enfance. Par ailleurs, on nous apprend très tôt que si l'on trouve un objet dans la rue, il faut le ramener au poste de police du coin, que de le garder pour soi est un délit.
La sûreté à Tokyo, elle se devine aussi quand on y voit des enfants de 6 ou 7 ans dans les rues, non accompagnés.
En effet, à partir de l'école primaire, en général, les enfants vont et viennent seuls. C'est possible parce qu'il y a dans les quartiers une habitude bien ancrée de protéger les enfants. Le parcours à suivre est préétabli. Des parents et des retraités bénévoles patrouillent et assurent la circulation. Par ailleurs, si jamais il existe des endroits supposés dangereux où un enfant qui a besoin d'aide ne pourrait pas être secouru, on demande aux enfants de l'éviter sur le chemin de l'école.
Les caméras de surveillance sont aussi omniprésentes à Tokyo et certains arrondissements donnent gratuitement aux écoliers un téléphone muni d'un système d'alarme qui leur permet d'alerter un centre de secours immédiatement en cas de danger.
Néanmoins, il est très important de ne pas se reposer sur une machine. Il faut une personne humaine qui protège et rassure.
La seule chose qui peut-être peut vous effrayer à Tokyo, Fabienne, eh bien, ce sont les chats errants.
Oh, Et en plus, le réalisateur Fabrice qui rajoute des bruits de chat, je savais qu'il fallait se méfier de cette ville au bout du compte et aussi de ces gens derrière la vitre. Merci beaucoup, Karine. Vous revenez évidemment quand vous voulez. Vous nous raconterez à l'occasion, tiens, les pousseurs dans le métro de Tokyo, parce que peut-être que ça finira par nous servir. Le bruit du monde a une suite. Elle est sous les radars. Et là, c'est beaucoup, beaucoup moins festif, Amélie Perrier. Le bruit que vous entendez là, c'est celui d'une arrestation musclée à Hong Kong.
La province chinoise est repassée sous nos radars médiatiques, mais les manifestations se poursuivent. Le mouvement est entré cette semaine dans son sixième mois. Les protestataires continuent de dénoncer la mainmise de la Chine sur le territoire semi-autonome, sur le pouvoir local. La chef du gouvernement, Carrie Lam, accusée d'être aux ordres de Pékin. Il dénonce, ces manifestants, aussi les violences policières. La police qui n'hésite plus à tirer sur les manifestants désormais. Voilà la conférence de presse d'un commissaire sous une bannière « Nous servons avec fierté et avec attention ». Il explique l'été dernier, après une journée de répression, que la police a dû riposter à des émeutiers violents. À chaque fois, ces émeutiers ont eu recours à des armes meurtrières comme des lance-pierres ou des cocktails Molotov, dit-il. Notre opération vise donc seulement les émeutiers violent. Voilà une rhétorique courante hein, des forces de l'ordre partout sur la planète, mais les images ont montré à Hong Kong des abus relayés, des images relayées partout dans le monde sur les réseaux sociaux. Alors le gouvernement local de Hong Kong a fait un geste en choisissant un groupe d'experts internationaux pour assister l'enquête sur les violences policières. Ces experts internationaux viennent de jeter l'éponge. Nous avons finalement conclu que de graves lacunes étaient patentes dans les pouvoirs, les capacités et les possibilités d'enquêter de manière indépendante de l'autorité de surveillance de la police. Remise en question donc de la police des polices. Selon le groupe des experts toujours, cette autorité n'est pas à la hauteur de ce que peuvent attendre les citoyens de Hong Kong. Une victoire donc pour les manifestants pro-démocratie. Dimanche dernier, ils étaient encore 800 000 à défiler. La dirigeante Carrie Lam continue de rejeter leurs revendications et annonce une visite à Pékin ce week-end.
L'Allemagne, Amélie, corrige une injustice vieille d'un siècle dans son armée.
Le gouvernement approuve un projet de loi pour permettre aux rabbins d'officier auprès des soldats allemands. Le projet doit encore être validé par le Parlement allemand. La ministre de la Défense, Annegret Kramp-Karrenbauer, y voit un signal clair. Elle l'écrit sur Twitter. La vie juive est une évidence dans notre pays. Ces rabbins qui vont intégrer la Bundeswehr, l'armée allemande, auront pour mission d'accompagner les militaires et d'émettre aussi des recommandations d'ordre éthique. Ils vont rejoindre ainsi les aumôneries protestantes et catholiques. Les musulmans ne sont pas encore représentés. Des discussions sont en cours. Intégrer des rabbins, c'est un enjeu fort pour la défense allemande, car ces dernières années, on a découvert que certains de ses membres de l'armée étaient d'extrême droite. Des casques et des souvenirs nazis ont été retrouvés dans une caserne. Et plus récemment, l'attentat devant la synagogue de Halle. Et ici, c'est la chancelière Angela Merkel. Juste après l'attaque, elle était allée dans une synagogue de Berlin. Là, elle était entourée de deux femmes rabbins. Signal fort donc contre l'antisémitisme en forte recrudescence, selon les chiffres du gouvernement allemand.
Et on termine au Rwanda, Amélie, qui prouve une fois de plus qu'il est l'un des pays les plus progressistes d'Afrique.
Oui, le gouvernement vient d'annoncer la suppression de la TVA sur les serviettes hygiéniques, une TVA de 18%.
Ok, ladies, let's get real about sanitary pad commercials.
Ok, mesdames, parlons des pubs pour les serviettes hygiéniques. En fait, parlons surtout des serviettes hygiéniques. Le Rwanda reconnaît aujourd'hui que c'est un produit de première nécessité, qu'il ne doit pas être soumis à la TVA de 18%. Le problème est très loin d'être anecdotique au Rwanda comme ailleurs. À cause de protections trop chères, beaucoup de jeunes filles sont obligées de stopper toute activité sociale pendant leurs règles, et notamment l'école. Beaucoup se déscolarisent à cause de ça. Or, les règles, c'est plusieurs jours chaque mois. Les féministes applaudissent donc la suppression de la TVA et la future baisse des prix, même si elles réclament désormais la gratuité, c'est l'étape supérieure, hein, la distribution gratuite dans les écoles.
Merci beaucoup Amélie Perrier, on va rester en Afrique, ça va vous faire plaisir. Savez-vous d'où Malia est originaire, hein, qui
non,
chante Yellow Daffodil Si, du Malawi.
Le Malawi.
So golden us of our day. About life, I feel your presence each and every day. Love pulled me in so many strange ways and robbed us of our day.
Yellow Daffodil, c'est le titre de la chanson. La chanteuse s'appelle Malia, originaire du Malawi. Pas de chronique Europe ce soir, mais on se retrouve dans pile 3 minutes 30.
qu'à ça pour manger, c'est pas l'argent. Peuple là, en cède nous péter sans péter fiel. C'est pour moi tant, pour haut c'est pour riche tant, pour pauvre c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Tant qu'on coule l'eau, bouquet, chemin, pour fête. Tant qu'on dit caillou, ou que raison, fête la tête. Ou que toute qualité, trésor, papier ou. C'est temps ou activé ou. C'est temps ou qu'on est. Ça ou gagné. Ça ou gagné. Oh, oh, oh.
Allez, on n'a pas eu de chronique Europe, mais on a été content d'écouter Mélissa Lavaux. On est reparti.
Fabienne Synthèse, le 18-20.
Et c'est le monde à l'envers, signé Jean-Marc Four. Jean-Marc, une nouvelle attaque djihadiste a fait 71 morts au Niger, au Sahel, donc 71 soldats de l'armée nigérienne. Dans la foulée, Emmanuel Macron a reporté le sommet qui était prévu lundi prochain à Pau avec les dirigeants africains du G5 Sahel. Du coup, c'est peut-être le moment de se poser une question simple. Et s'il était temps de se retirer militairement de cette zone, c'est votre monde à l'envers.
Exactement. Et si on arrêtait les frais, quoi? Et si on pliait bagages? Franchement, beaucoup d'arguments plaident pour la marche arrière toute. Parce que il est quand même très loin le temps en 2013 où les blindés de l'opération Serval, vous vous souvenez, étaient accueillis au Mali par des drapeaux français au bord des routes. 6 ans plus tard, la situation militaire non seulement ne s'arrange pas, mais en fait elle se dégrade. Quelques jours après la mort, on le sait, de 13 soldats français, les affrontements de cette semaine au Niger sont révélateurs. L'armée nigérienne a beau être un peu plus aguerrie que ses voisines du Mali et du Burkina, elle en a quand même pas moins fait l'objet d'une attaque en règle, mais vraiment une attaque en règle de la part des islamistes, nombreux, organisés, 71 soldats, vous le disiez, tués en moins de 3 heures, ce qui est énorme. Et le mot terrorisme n'est d'ailleurs plus vraiment adapté dans cette région de l'Iptako-Gourma, c'est-à-dire autour des 3 frontières Mali-Burkina-Niger. C'est d'une guerre dont il s'agit en fait, avec un ennemi qui possède d'ailleurs un projet politique structuré. Et plus les jours passent, plus la situation rappelle celle de l'Afghanistan. Une guerre sans fin, impossible à gagner, où une armée extérieure, en l'occurrence l'armée française, cherche sans succès à former une ou des armées locales face à un opposant qui ne cesse de gagner du terrain. Les 4500 soldats de l'opération française Barkhane ne sont pas en cause, ils n'ont pas juste pas les moyens de gagner cette guerre. Il y a 6 ans, ils étaient perçus comme une armée de libération, ils sont de plus en plus perçus comme une armée d'occupation, et c'est compréhensible. Plus le temps va passer, plus ils vont s'entendre dire « rentrez chez vous », donc bah, autant partir.
Alors ça c'est pour l'aspect strictement militaire, Jean-Marc, sur le plan politique, autant partir aussi?
Alors la question politique c'est quel est le but de guerre? Et il n'est plus très clair, parce que c'est une conséquence de l'échec militaire. Du coup, au Mali, au Burkina, au Niger, des voix s'élèvent désormais pour regarder cette présence française comme une présence néocoloniale. Un jour, c'est un dirigeant politique qui dit ça, un autre un chef religieux, une autre fois encore un artiste comme le chanteur Salif Keïta. Le soupçon s'installe sur d'éventuelles intentions cachées de la France, des visées sur les ressources minières, voire un grand complot où Paris serait même l'allié des djihadistes. Oui, oui. Sur ce thème, les fake news pullulent sur les réseaux sociaux au Mali. Tout ça se nourrit évidemment des plaies mal refermées de la période coloniale et aussi de certaines maladresses politiques de Paris. À quoi je pense quand je dis maladresse? Je peux vous donner 3 exemples. Les Maliens ne comprennent pas pourquoi la ville de Kidal au nord reste contrôlée par la France et n'est pas rendue à l'armée malienne. En fait, c'est que Paris redoute des représailles contre les Touaregs du MNLA, mais du point de vue malien, c'est une atteinte à la souveraineté nationale. 2 exemple, au Sahel toujours. La France envisage d'appeler en renfort l'armée du Tchad, parce que c'est la seule véritable armée dans la région. Sauf que ces méthodes expéditives font peur, non sans raison, aux populations locales. 3 exemple, cette réunion du G5 prévue initialement donc à Pau lundi prochain, plusieurs pays invités, entre guillemets, y ont surtout vu une convocation de Paris, donc de l'ancienne puissance coloniale. Maladroit. Si on ajoute à tout ça le coût faramineux de l'opération, des centaines de millions d'euros, oui, on se demande ce qu'il y a encore à gagner à rester sur place.
Donc on s'en va.
Non, non, y a rien à gagner à rester, on a compris, mais il y a sans doute beaucoup plus encore à perdre à partir. Et c'est ça tout le problème. Partir, ça voudrait dire quoi, en fait? Premièrement, laisser le champ libre aux djihadistes, État islamique, Al-Qaïda, Boko Haram. Vu l'état des armées locales, ces groupes auraient au fait de prendre le contrôle du Mali ou du Burkina, voire de menacer plus au sud le Bénin, voire la Côte d'Ivoire. Partir, ça impliquerait aussi laisser le champ libre à d'autres acteurs étrangers. On pense par exemple à la Russie, qui est déjà bien présente, plus à l'est, en République centrafricaine. Et puis un succès djihadiste entraînerait sans aucun doute des exodes massifs de population, donc un afflux de réfugiés vers l'Europe. Pour toutes ces raisons, il vaut sans doute mieux rester, mais à condition de donner vraiment la priorité à la recherche de solutions politiques, pas militaires. Un dialogue ouvert, peut-être même avec les groupes djihadistes, ça serait sans doute plus efficace que l'envoi de dizaines de commandos spéciaux. Donc on se résume, rester est une mauvaise solution, mais ça demeure probablement la moins mauvaise.
Le Monde à l'envers et Jean-Marc Four dans Un jour dans le monde, merci beaucoup. La suite ce soir, c'est le téléphone sonne. On va parler de ce mois de janvier sec, donc mois de janvier sans alcool, porté par les associations, mais pas par le gouvernement. Pourquoi c'est si compliqué et surtout, à quoi ça sert? Ça se passe au 01 45 24 7000. Vous le savez, on ne prend pas d'appel en ce moment, mais nous lirons toutes vos questions à l'antenne. Et puis, juste avant, c'est le journal signé Sébastien Paour. Ne bougez pas.